Pages arrachées à Nicolas Bouvier. La route vers l'Orient. Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Deuxième épisode, Téhéran, Quetta.
J'avais 23 ans au début du voyage. Je suis parti le lendemain de mes derniers examens sans même attendre les résultats. C'était un projet que nous avions cuit et recuit depuis longtemps. J'avais la chance d'avoir cette petite voiture très robuste, la Topolino, que j'ai entièrement démontée et transformée en 8000 pièces, que j'ai toute lavée à l'essence et graissée. Et je l'ai entièrement remontée comme un immense mécano. J'ai fait ça avec un apprenti garagiste qui amenait les outils. Une fois cette opération réalisée, comme Thierry était souvent venu travailler avec moi, cette voiture n'avait plus beaucoup de secrets pour nous. Nous sommes partis sans esprit de retour. Nous nous disions, ça va peut-être se terminer en Californie, nous nous arrêterons quand nous en aurons assez. J'étais parti pour rencontrer des gens et l'usage du monde est une gigantesque ménagerie où un singe observe un cheval observe un mollat qui observe une fourmi et ces constats éberlués donnent lieu à des réflexions assez cocasses. Les gens nous enviaient beaucoup de mener cette vie parce que le statut de nomade en Asie est souvent relié à des pèlerinages religieux. Voyager est considéré comme un projet extrêmement respectable. D'ailleurs, les différents mots qu'on utilise pour route, voyage, voyageur, en pachtoune, en ourdou, en farsi, sont des mots nobles.
Au début du printemps 1954, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet quittent Tabriz, en Azerbaïdjan iranien, où ils viennent de passer l'hiver pour gagner Téhéran et poursuivre leur voyage vers l'Est.
À en croire les Téhéranis, Téhéran n'est pas même une belle ville. On a démoli pour faire moderne plusieurs coins charmants du bazar, tracé au cordeau des avenues sans mystère, abattu les anciennes portes et, du même coup, un vieux restaurant orné de fresques d'époque Qadjarle. Il faut descendre au moins jusqu'au faubourg de Ré, d'où partirent les rois mages, pour avoir le sentiment du passé. On vous parle aussi, en s'excusant, du climat trop sec, des trombes de poussière, du tour de main des voleurs et de ces courants magnétiques qui rendraient morose et irritable. On vous dit, attendez, vous verrez Ispahan, vous verrez Shiraz. Peut-être. À l'auberge Parse, aux abords du bazar. La chambre est si exiguë et encombrée qu'il faut s'étendre sur les lits pour travailler. Le plafond est une mosaïque d'estagnons BP qui laisse filtrer le clair de lune. Quelques puces, des clients kurdes, des nomades cascailles à l'odeur de mouton, des paysannes qui vous adressent un sourire juste et modéré, et dans la chambre voisine, un négociant assyrien qui compte et recompte de toutes petites sommes. Une passerelle de bois relie les chambres à la Chai Khan, où la radio diffuse sans arrêt ses calmes hiérarchies d'arpèges de l'ancienne musique iranienne. Sous les fenêtres, à main gauche, une enfilade de galeries vermoulues descendent vers l'entrée du bazar. Plus bas encore, des bouquets de tamaris et des faubourgs de terre dont les murs écroulés s'entrecroisent et gagnent la campagne. À main droite, les vieux canons de la place Toubkhan et les néons de l'avenue Lalezard qui montent en pente douce vers les beaux quartiers. Dans le bas, deux tavernes populaires où de maigres fillettes en tutu pailleté font des exercices d'équilibre au milieu des buveurs d'arak et des braillards. Puis des marchands à la sauvette, peignes, espadrilles, images saintes, sifflets, préservatifs, savon à la violette. Puis un théâtre qui annonce l'adaptation persane de L'étourdi de Molière et présente une comédie tirée du livre des rois de Firdousi, où l'on voit le sassanide Bahram Gore s'installer incognito chez les plus pauvres de ses sujets pour confondre ses officiers qui les pressurent. Un matin, avenue la Lezard, en passant devant la porte ouverte d'une parfumerie, j'entendis une voix sourde, voilée comme celle d'un dormeur qui rêve tout haut. « Tu t'en vas sans moi, ma vie. Tu roules, et moi j'attends encore de faire un pas. Tu portes ailleurs la bataille. » J'entrai sur la pointe des pieds. Affaissé contre un bureau cylindre dans la lumière dorée des flacons de Chanel, un gros homme parfaitement immobile, une revue ouverte devant lui, lisait à haute voix ce poème. Se le répétait plutôt comme pour s'aider à accepter des choses qu'il ne savait que trop. Une expression extraordinaire d'acquiescement et de bonheur était répandue sur son large visage mongol perlé de sueur. Il était seul dans la boutique et trop absorbé pour s'aviser de ma présence. Je me gardais bien de l'interrompre. Jamais la poésie n'est mieux dite que de cette façon-là. Quand il eut terminé et qu'il m'aperçut à deux pas de lui, il n'en marqua aucune surprise et ne me demanda pas davantage si je désirais quelque chose. Il me tendit simplement la main et se présenta. Des yeux noirs liquides, une petite moustache de morse, une élégance un peu molle. Sohrab. Comme un miroir, un visage intelligent à l'âge de ce qu'il reflète. À 25 ans, Sohrab en paraissait tantôt 16, tantôt 40. Plutôt 40, et le ton de « qui en a déjà fini avec les surprises de l'existence ». C'est qu'il n'avait pas toujours récité Michaud dans une parfumerie. Il avait fait beaucoup de choses, Sohrab, et s'y était pris de bonheur. À 16 ans déjà, lecture, noctambulisme, hachiche dans l'entourage du poète Hedayat, où on l'acceptait malgré sa jeunesse. Aujourd'hui, Hedayat est mort. Il a ouvert le gaz dans sa mansarde parisienne, mais son ombre habite encore la jeune littérature iranienne. Il se droguait. Beaucoup se droguent. Il s'est tué. Certains se tueront. Il aimait les fleurs funèbres, la gratuité, l'abandon, et vivait dans le sentiment de la mort et de la nuit. Ses épigones font tout cela. Dans le Téhéran policier de l'après-guerre, cette bohème quasi clandestine avait duré 5 ans. Tentative d'action progressiste, galerie de peinture, revue surréaliste qui meurt au second numéro. On s'éloigne à pas de loup du réel, on croit l'avoir oxy pour de bon, et il descend sur vous comme une tonne de briques. Les amis s'éparpillent, la galerie périclite. Il faut, pour attirer l'acheteur, y organiser des thés dansants avec poules. Puis, faute d'être payé, les poules disparaissent à leur tour. Sauf la plus vieille qui vous reste on ne sait comment sur les bras et dont il faut bien des mois et des mots pour se défaire. Alors on se retrouve seul, 21 ans à peine, mais déjà la tremblote et plus les nerfs qu'il faudrait. Ensuite, Sohrab avait passé une année comme professeur au lycée de Maran. Les peupliers d'Azerbaïdjan et une classe de jeunes provinciaux frisés, engourdis, désespérants, qui n'avaient jamais pensé qu'on pût penser. À force de les secouer, de tailler en pleine torpeur, il avait obtenu quelque chose comme un début de réveil, quand la tuberculose l'obligea à quitter. Il avait alors profité de la maladie pour faire son brevet d'ingénieur et s'engager dans une compagnie anglaise d'Abadan. La bonne vie. Koweït est tout près, vous savez. Pas besoin de passeport. Beaucoup de contrebande. Nous y allions par mer, nous passions quelques petites choses. De laïka bourré, sa voix fait une pointe tranquille, de cocaïne. Péché véniel d'ailleurs. C'est seulement quand j'ai voulu syndiquer les ouvriers qu'on m'a mis à la porte. Pourtant, mon cher, vous auriez dû m'entendre. Je leur faisais des laïus épatants. Émotif, ému par la détresse de son pays, il avait alors rejoint le parti Tudé et adopté ce marxisme hésitant si répandu dans la jeunesse iranienne. Puis, Sohrab avait tout abandonné. Maintenant, il gérait sa parfumerie et travaillait comme expert dans un bureau d'État où, en fait, il n'était jamais. Il venait depuis peu de couper la drogue, et cette privation le travaillait terriblement. J'essaie de m'en sortir, d'être régulier. On m'y pousse, on m'encourage. Une femme, c'est l'amour, mon cher. La saison des bêtises. mais il en parle avec une lassitude si détachée que j'ai l'impression qu'il parodie des choses vieilles d'au moins 1000 ans. Nous sommes attablés entre des camions gigantesques dans un café de la vieille route de Chéméran. La lampe tempête qui nous éclaire siffle doucement. Le ciel est plein d'étoiles. Sorab parle d'une voix subtile et ralentie. Il sue à grosses gouttes. Des perles régulières se forment à la racine des cheveux et lui tombent sur les yeux. Il doit nous voir à peine. Bien en deçà de son regard, il se bat seul contre ses monstres, sa peur, contre le naufrage dans cette blanche lumière d'acétylène en complet croisé bleu roi à 25 ans.
Quelques semaines à peine à Téhéran, entre avril et mai 1954, avant de reprendre le chemin du Pakistan. On leur déconseille de passer par la route du Sud et le désert du Lout. Ils iront quand même, quitte à risquer leur vie. Ispahan, Shiraz, puis la longue traversée du désert, d'où Nicolas et Thierry ressortiront épuisés, leur voiture endommagée. La frontière, enfin, et la ville de Quetta, où pendant quelques temps, ils travailleront comme musiciens pour Terence, le patron du Sakibar.
Je me souviendrai longtemps du Sakibar et de Terence, son patron qui nous employa pendant 3 semaines. Depuis que nous avons eu vent de sa disparition, je m'attends constamment à le voir ressurgir, avec ses pantalons de flanelle distendus, ses yeux patients, ses lorgnons de fer et ce hâle cuivré des invertis qui ménage à l'endroit des pommettes 2 zones de coupe rose bien irriguées où affleurent les émotions. C'était un homme distrait, bienveillant, avec dans l'allure quelque chose de lumineux et de brisé. Bien qu'il fût fort réservé sur ce point, il paraissait souffrir d'un penchant auquel, dans cette ville, ils étaient pourtant nombreux à céder. Une petite chanson patane que Saadik, le cuisinier, fredonnait en tisonnant son feu, l'attestait avec fraîcheur. Un jeune homme traverse la rivière, son visage est comme une fleur, son derrière est comme une pêche. Ah, que ne sais-je nager ?
Terence mijotait lui-même une excellente cuisine. Des soupes au poivron, des steaks sur charbon de bois et des soufflets au chocolat qu'il faisait monter avec une pelle rougie au feu. Là, il fignolait, avait des trucs et des trouvailles, dispensait avec une sobre passion épices et herbettes. Ses menus tenaient du mage et de la tzigane amoureuse et c'est dans ses préparations que sa nature femelle se trahissait le plus, ainsi qu'une nostalgie très forte de la qualité. Faire parfaitement ce qu'il faisait, qui donnait parfois à ses avatars l'allure d'une libération et d'une conquête. Saki, c'est le Ganymède de la poésie persane, les chansons du paradis, l'introducteur à des délices qu'une enseigne de bois suspendue au-dessus de l'entrée exprimait fort bien. Un flacon de vin à long col, un narguilé, un luth et une grappe de raisin. Chaque grain brillant comme une fenêtre bien lavée, peint en ton sourd et exquis. Derrière ce panneau, commençait le domaine surprenant du Sakibar où Terence gouvernait ses noirs et langoureux marmitons. C'était une salle étroite et fraîche, doublée d'une cour terrasse blanchie à la chaux où, le soir venu, les rêveurs de la ville s'attablaient dans l'odeur des lauriers et où, de 9h à minuit, sous la trompeuse étiquette de « Continental Artist », nous grattions bravement nos instruments. Terence avait tenté de transformer sa courette en tonnelle à la française. 2 arbres en pot, une piste de danse couverte d'un parasol mangé au mythe, des fauteuils de rotin, un piano aux bougeoirs tourmentés et, au mur, 4 couvertures de la vie parisienne avec des femmes tout en œillades, en gorge exquise, en bouclettes. Mais l'éloignement, l'ancienneté de ses souvenirs avait rendu cette ébauche de guinguette linéaire, comme abstraite, et ses blondes images gondolées de soleil ne suffisait pas à conjurer tant d'aridité et de blancheur. Terence avait connu d'autres temps puisque presque tous ses clients, chefs baloutch ou patans, libéraux afghans en exil, commerçants du Pendjab, officiers écossais au service du Pakistan, semblaient l'avoir connu ailleurs et l'appelaient « colonel ». Cousu bout à bout, les récits qu'il nous faisait en attendant l'aube permettaient d'imaginer ceci. Il avait grandi dans le sud de la Perse, où son père était consul britannique, pris ses galons en Angleterre dans un régiment de la garde, et dépensé sa part d'héritage dans le pari des ballets russes et des coupés sports de l'âge. Passé quelques années en Abyssinie, d'où l'arrivée des Italiens l'avait délogé. Après des tribulations sur lesquelles il gardait le silence, il se retrouvait colonel à Peshawar et agent politique d'un district patan, c'est-à-dire responsable de 100 km de montagne, presque inaccessible et truffé de fusils enclins à partir tout seul. L'indépendance de l'Inde et les troubles de la partition l'avaient surpris sur ses confins explosifs et salubres, dont il aurait pu dessiner la carte en dormant. La petite guerre du Cachemire lui avait permis d'employer quelque temps encore ses compétences. Et maintenant, cordon bleu, patron de bar dans une impasse sableuse entre la boutique d'un photographe franco-indien et celle d'un sikh, marchand de vélo, soupirant d'aise après le départ du dernier client et repoussant le moment d'aller dormir comme s'il craignait de manquer pendant son sommeil un rendez-vous auquel il serait venu de très loin. De cette origine, Terence avait conservé les vertus les plus aisément transportables. L'humour, la discrétion, une grande possession de soi. Il s'était dépouillé du reste pour suivre sa propre voie et atteindre après je ne sais quel revers ce qu'il appelait sa vocation de « clown restaurateur ». Vivant au jour le jour, travaillant sans filet et obligé de compter, comme tous ses concurrents, avec les caprices d'une administration corrompue. Cette situation donnait du poids à ses opinions et ses goûts. On ne peut aimer vraiment que les choses dont on dépend. Pour 3 semaines, nous dépendions du Sakibar et nous l'aimions. Terence dépendait de l'Asie avec laquelle il s'était compromis et rêvait de s'en arracher, mais il l'aimait et avait payé assez cher pour prendre au dessin d'un tapis ou à la poésie persane ce plaisir âpre et profond que ne connaîtront jamais ceux qui n'ont pas d'ennui à craindre. Les 3 boys du Saki appartenaient à cette fraction volage de l'humanité qui chantonne en roulant des yeux mobiles, circule pieds nus et transporte sa fortune dans un mouchoir. 15 jours leur suffisaient pour s'aimer, se bouder, se retrouver. Fugue, brouille, ferveur, langueur, rupture. Même Saadik le barman, pourtant jobard et terre-à-terre, ne mangeait plus de la semaine lorsqu'il avait été posé. Ces soirs de crise, Terence débordé ne quittait ses fourneaux que pour prendre le frais à la terrasse. Le visage trempé de sueur, égaré. « Jouez-moi vite ce petit truc, vous savez bien. » Et c'était un air serbe ou un air persan, mais toujours une chose déchirante. Et une ou deux fois même, nous le vîmes pleurer. Ce travail, ses hauts et ses bas, cette ville si légère et lointaine, ses fournisseurs filous, c'était trop pour un homme de son âge. Il avait l'impression de s'enliser, de gaspiller ici son talent. Parfois, nous l'apercevions, tournant en plein soleil dans sa courette, en morigénant les boys d'une voix forcée, voûtée, les poings plantés au fond de poches que les rapiessages de Saadik avaient allongés jusqu'aux genoux. À croire qu'il allait charger quelqu'un à coups de tête, mais non. C'était un peu de solitude qui sortait, et l'Asie, si bonne pour le cœur et si mauvaise pour les nerfs. Dans une niche sous l'escalier de fer qui reliait le bar au toit-terrasse, Terence entreposait les objets qu'il avait suivis dans ses tribulations. La photographie d'une meute de ses terres devant une façade à clocheton, quelques volumes de Tennyson, Proust dans une reliure de toile verte, 3 années de la vie parisienne et 40 kilos de vieux enregistrements « His Master's Voice ». Alfred Cortot, l'Orphée de Gluck, la flûte enchantée. Parfois, il s'éloignait pour mettre un disque et disparaissait dans ce bric-à-brac. Derrière la musique, on l'entendait remuer des objets, défaire des piles en soliloquant, relire de vieilles lettres et on ne le voyait plus de l'après-midi. Il montait jusqu'à la pantie qui lui servait de chambre pour rester seul avec ses souvenirs et le sommeil les surprenait. Je n'ai pas souvenir que les Continental Artists aient déplacé les foules. Le boy se massait les chevilles en chantonnant. Terence relisait le côté de Guermantes, dans une édition tachée de jean, feignant poliment de découvrir les tangos que nous lui avions serinés 100 fois, ou frappé la mesure dans ses paumes, l'air transporté, dans l'espoir d'accrocher le client.
Dans la ville de Quetta, dit une légende persane, Bahram Gor, le Sassanide, recruta pour égayer sa cour 10 000 jongleurs et musiciens de tziganes qui, ayant touché leur gage, le trompèrent et disparurent vers l'ouest pour s'établir en Occident dans ces campagnes des Balkans où, l'an passé, à la saison des cigognes, nous avions vidé tant de verres avec leurs descendants. Après une journée harassante à réparer la voiture, ce retour de souvenirs, c'était le paradis. Le voyage, comme une spirale, montait en repassant sur lui-même. Il faisait signe, nous n'avions qu'à le suivre. Terence, très sensible au bonheur, décachetait sa dernière fiasque d'Orvieto. Le bouchon sautait, augmentant de 23 roupies le passif du saki. Peu lui importait. Il avait dépassé l'efficience, le genre « on ne m'a pas ». Demi-solde coincé dans ce bar en déroute, chargé des confidences de toute une ville, de dettes et de vieux disques de Mozart, il voyageait plus loin et librement que nous. L'Asie engage ceux qu'elle aime à sacrifier leur carrière à leur destin. Ceci fait, le cœur bat plus au large et il y a bien des choses dont le sens s'éclaire. Pendant que le vin tiédissait dans nos verres et que Terence regardait cheminer les étoiles, immobile et attentif comme un oiseau de nuit, un vers de Hafiz me revenait en mémoire. Si le mystique ignore encore le secret de ce monde, je me demande de qui le cabaretier peut bien l'avoir appris. La dialectique de la vie nomade est faite de deux temps, s'attacher et s'arracher. On n'arrête pas de vivre ce couple de mots tout au long de la route. On a peine à quitter les amis que l'on s'est fait, mais en même temps, on se réjouit de la chance qu'on a de pouvoir se promener sur cette planète. On se dit, si cette amitié doit durer, elle durera, Inch'Allah. Dans la plupart des cas, elle ne dure pas.
C'était « Pages arrachées » à Nicolas Bouvier, « La route vers l'Orient ». Texte choisi et présenté par Laurent Martin. Deuxième épisode, avec Igor Menjiski, Arnaud Bédoué, Sarah Caponi. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Pierre Henry. Assistant, Guy Peramore. Réalisation, Michel Sidoroff. Extrait de « L'usage du monde » aux éditions La Découverte et de Routes et Déroutes aux éditions Métropolis. Aïe.